Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Graphite 94.9 et Graphite.net. Je suis Stéphane, je suis en studio avec Capucine, Louis et Abel. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
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 Vous allez nous présenter d'ici quelques instants votre projet L'Arbre à chatons. Alors, je laisse le mystère sur ce titre que vous avez choisi justement probablement pour qu'il soit mystérieux. Cet après-midi, eh bien, vous allez nous présenter donc, le projet que vous avez réalisé dans le cadre du cours IS03 à l'Université de Technologie de Compiègne, le cours qui s'appelle L'Authéquisation et Numérique. Alors, on a déjà parlé de piquets connectés dans le domaine de l'agroécologie, on a parlé d'hémodialyse l'authéquisée, on a parlé de biomonitoring pour étudier la biodiversité dans un contexte de science participative. Je laisse planer encore un tout petit peu le mystère sur le sujet que vous allez aborder de votre côté, juste pour rappeler que donc, dans le cadre de cette UV, eh bien, on aborde la question de la conception de services ou d'objets en lien en général avec le numérique et on l'aborde sous l'angle socio-environnemental. Dans le cadre des projets, il y a différentes phases. Vous allez là nous en donner à voir une partie. Vous avez fait de l'état de l'art, vous avez fait de l'idéation, vous avez fait du maquettage, notamment à travers une méthode dite des petites histoires. Vous allez certainement nous en raconter un petit bout. Et puis vous avez fait de l'évaluation réflexive. Pareil, on en aura sûrement un aperçu. Mais donc, ça suffit pour moi. Je passe la parole à Abel pour la présentation du projet L'Arbre à chatons.
L'Arbre à chatons, en quelques mots, c'est un ensemble de guides pour apprendre à créer son propre chaton lothéquisé. Chaton, c'est un mot qu'on va utiliser souvent tout au long de l'émission. Et on va parler des chatons, de un chaton. Ça désigne en général un membre du collectif chaton. Et donc, le collectif chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Un chaton, ça propose en général plusieurs services numériques de tout type. Donc ça peut être du média social, de la messagerie, un hébergeur web, du cloud. Et à Compiègne, typiquement, il y a le chaton Picasoft, ou plus généralement sur toute la France, le plus gros chaton, le plus connu, c'est Framasoft. D'après le site du collectif chaton.org, le collectif il vise à rassembler des structures proposant des services en ligne libres, éthiques et décentralisés, afin de permettre aux utilisateurs et utilisatrices de trouver rapidement des alternatives respectueuses de leurs données et de leur vie privée aux services proposés par les GAFAM. GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
Quoique. GAFAM, c'est un mot qui reprend la première lettre de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les marques les plus cool du monde. Romain rêve d'y travailler pour faire fortune ou au moins avoir leur super produit. Pourquoi parler d'ogre alors? Parce que GAFAM désigne plus largement ces géants des technologies à ce point important dans l'économie et dans nos vies qu'ils en deviennent inquiétants. Car ce sont d'abord des entreprises qui cherchent à faire du profit. Au début, le rêve était cool. Le géant, appelons-le Georges, était prêt à tout pour aider tout le monde. Besoin d'un bon resto? Georges avait la réponse. Et en plus, il disait comment y aller. Et pour acheter des livres, des vêtements, de la musique, n'importe quoi, il était encore là. Et puis le rêve devenait angoissant. Le père de Léa est commerçant. Si Georges ne parlait pas de lui, il n'avait pas de client. Sa mère était malade. C'est à Georges qu'il fallait demander le numéro du médecin. À la fin, on réalisait qu'en échange de ses services, Georges avait pris le contrôle. Il vous suçait le cerveau, les infos perso et toute votre mémoire. Et le pire, c'est qu'il vendait toutes ces données à des publicitaires, ou mieux, à des hommes politiques, pour manipuler Léa. Le rêve était devenu un cauchemar.
C'était « Qui sont les GAFAM ? Enjeux et problématiques de l'ogre du XXIe siècle » par Bruno Davic, journaliste, sur l'UMNI, France Télévisions et France Inter. Donc le but de notre projet, c'est d'aider les chatons à se lothéquiser. Donc ces alternatives aux GAFAM, on va les aider à respecter des valeurs de responsabilité sociale, de soutenabilité environnementale et de convivialité technique, grâce à un guide, qui est justement l'arbre à chatons. Notre projet, il a comme point de départ un chaton, duquel on s'inspire, qui est un chaton situé en Centre-Bretagne, qui s'appelle Arpan, et je vais laisser Thomas Picouet, ainsi que Maëlle, nos suiveurs et notre suiveuse, le présenter.
Arpan, l'alternative rurale pour une autonomie numérique. Arpan en breton signifie soutenir, s'appuyer sur, mais aussi résister, faire obstacle à. Et c'est notre but, soutenir un numérique humain et collectif et résister au monde mercantile des multinationales.
Donc on est cinq, basés autour de Rostrenin en Centre-Bretagne.
Et on s'est développé autour du travail que font Alain et Anne-Marie depuis maintenant plus de 15 ans au sein de l'association Esprit Fab Lab. Ils offrent des services numériques libres à toute la population sur un territoire hyper rural où la fracture numérique et l'éloignement des services publics est assez fort. Les gens, ils apprécient cet accompagnement, ils sont sensibles aux valeurs d'un numérique libre dont ils comprennent au moins en partie le fonctionnement et dont ils ont plus le contrôle qu'avec les GAFAM.
Il y a aussi le fait d'utiliser du matériel de seconde main, de faire à la main. Et ça trouve un écho chez une population exposée aux pollutions industrielles locales, notamment avec l'industrie minière et l'agro-industrie. Arpan, c'est donc une plateforme numérique qui propose des services en ligne.
Ces services, on dit qu'ils sont libres, dans l'idée qu'on peut savoir comment ils sont faits, on peut les ouvrir, on peut même les modifier à notre convenance. Ils sont également décentralisés, dans le but de proposer une alternative aux silos de données des GAFAM et à leur monopole, et évidemment respectueux de la vie privée.
Un outil numérique de territoire géré par et pour ses habitants. L'idée est que la communauté utilisatrice se l'approprie, monte en compétence sur les enjeux du numérique, notamment sur l'énergie et les pollutions, sur la vie privée, sur la dépendance, et l'ajuste ensuite en fonction de ses besoins, de ses envies.
L'idée, c'est justement de se répartir les rôles, mais que la parole et les savoirs circulent et bénéficient à la communauté.
C'était Thomas et Maël qui nous présentaient donc leur projet Arpan, un projet de chaton.
Maintenant, je vais continuer en vous parlant un peu de l'état de l'art de notre projet. Et dans une première partie, je vais vous parler d'un article de Low-Tech Magazine publié le 24 septembre 2018, presque 6 ans déjà. Cet article, on l'a trouvé dans nos recherches, donc dans le cadre de cet état de l'art. Et il explique de quelle manière un site internet, ou en tout cas plus précisément le site internet du magazine, tourne sur un serveur de quelques watts seulement, sur une petite carte électronique. Par comparaison, une LED qui sert à l'éclairage d'une pièce quand vous rentrez chez vous et que vous allumez la lumière, ça se mesure en une dizaine de watts. Donc ce serveur qui fait tourner l'entièreté du site, il consomme 10 fois moins que simplement l'éclairage de votre couloir. C'est assez impressionnant. Ok, mais ça fait pas tout. L'impact environnemental du numérique, ça se mesure sur tout son cycle de vie, et plus particulièrement sur la phase de construction du matériel. Lorsqu'on parle d'énergie consommée, on s'intéresse seulement à la phase d'utilisation. Alors, qu'en est-il vraiment des autres phases comme la construction ?
Envoyer un mail, publier ses photos sur les réseaux, regarder une vidéo sur le web. Des habitudes devenues quotidiennes qui n'ont pourtant rien d'anodin, car le cloud n'est pas un nuage magique. Derrière, il y a des ordinateurs, des câbles, des serveurs qui génèrent une pollution invisible, mais pas sans conséquences.
Il y a deux types de pollution numérique, celle liée aux équipements et celle générée par leur utilisation. En France, les smartphones, télé, ordinateurs engendrent 80% de la pollution numérique. Leur fabrication nécessite notamment d'extraire des métaux lourds et de les traiter chimiquement en Afrique et en Asie. Le coût environnemental et humain reste donc impalpable chez nous, mais la France compte 11 équipements en moyenne par utilisateur, contre 8 dans le reste du monde. Limiter leur achat et prolonger leur durée de vie est l'un des enjeux des prochaines années. Côté pollution liée à l'utilisation, les vidéos en streaming concentrent à elles seules 60% du transfert de données sur le web. Les data centers qui les stockent et sont sollicités à chaque utilisation d'Internet consomment pas moins de 10% de l'électricité en France.
C'était un extrait de Tout savoir sur la pollution numérique par E. Partouche, chez Villemeur, E. Pierson, S. Pierson et I. Vaskovitz sur France 3. Donc pour comprendre pourquoi on en arrive à un tel problème et pourquoi ça devient surtout un problème, il faut comprendre qu'Internet, c'est de plus en plus lourd en ressources. Par exemple, là où un jeu vidéo, avant, il devait rentrer dans des cartouches de quelques mégaoctets extrêmement limitées en mémoire auparavant, aujourd'hui, les capacités se sont démultipliées et on utilise de plus en plus de mémoire. C'est la même chose pour les sites web. La taille des sites web a en moyenne triplé en 10 ans environ, d'après le même magazine, Low-Tech Magazine. Le but de l'article, c'est donc de comprendre comment on réduit la consommation énergétique d'un serveur. Ça passe par plusieurs étapes. D'abord, compresser les images et vidéos utilisées pour qu'elles prennent moins d'espace et qu'elles utilisent moins de bande passante. Ensuite, arrêter l'usage systématique de polices d'écriture différentes de celles par défaut pour ne pas utiliser de la bande passante du tout et garder les polices d'écriture proposées par le navigateur. Ensuite, ne pas utiliser de pub ni de cookies. Ça, c'est très important. Ça implique un changement de modèle économique pour la plupart des sites. Donc, c'est évidemment extrêmement compliqué. Mais les pubs et les cookies, c'est d'abord un problème éthique. Et ensuite, les pubs, ça représente une part extrêmement importante du trafic sur Internet. Enfin, il faut mettre fin aux pratiques d'usage qui reposent sur l'always on. Always on, en anglais, toujours allumé. C'est la pratique qui consiste à laisser tourner nos serveurs 24 heures sur 24. en supposant que quelqu'un pourrait y accéder à par exemple 3h du matin. Et évidemment, ça consomme plus que si on l'éteignait la nuit. Mais le matériel, dans tout cela, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, une fois qu'on a construit un site qui consomme moins, c'est beaucoup plus facile d'être économe sur le matériel. En effet, des petites machines peuvent suffire à faire fonctionner des sites économes en ressources. Donc le site Low-Tech Magazine, il explique comment l'utiliser son site web, d'abord sur l'énergie, mais ensuite sur le matériel, en se disant que quand on a perdu une grande partie de l'énergie consommée, eh ben, on peut faire tourner le site sur une carte électronique qui tient dans la paume de la main et qui, évidemment, en termes de matériel et d'infrastructure numérique, demande beaucoup moins. J'ai maintenant passé la parole à Capucine pour qu'elle nous parle d'une petite histoire.
Je vais vous présenter l'histoire de synthèse de notre maquettage pour que vous puissiez mieux comprendre le but de l'arbre à chatons. Donc dans cette histoire, Alex a 20 ans et souhaite créer ses propres services web locaux. Elle porte en elle les valeurs du logiciel libre, des communs, et est consciente des impacts écologiques du numérique qu'elle souhaiterait minimiser. Elle est aussi sensible aux enjeux sociétaux du numérique avec les problématiques de surveillance, de stockage des données, de manipulation, de publicité ou d'addiction. Elle fait donc des recherches sur le web et tombe sur le concept de chaton lotéxisé, puis sur le site internet de l'arbre à chatons. Elle y accède gratuitement, en ligne, sans cookies ni inscription. Sur le site de l'arbre à chatons, il y a un guide avec 4 branches principales, une branche matérielle, une logicielle, une communication et sensibilisation, et une gouvernance. Donc Alex est assez intéressée et fouille un peu pour trouver plus de détails. Donc elle trouve dans la branche matérielle des explications sur comment trouver des ressources matérielles en accord avec des valeurs de lotéquisation. Donc il y a par exemple des propositions de seconde main, et donc où se fournir et que choisir. Elle trouve ensuite dans la branche logicielle des façons de minimiser les flux de données et la consommation des services au niveau des codes, par rapport au principe que Abel a expliqué précédemment. Puis dans la branche sensibilisation et communication, elle trouve des propositions d'ateliers pour expliquer ce que c'est qu'un chaton, ou encore pour expliquer les enjeux du numérique. Et enfin, dans la dernière branche, la branche gouvernance, il y a des explications sur des moyens d'organisation au sein des associations, sur des prises de décision et sur l'inclusion des utilisateurs. Par exemple, il y a le fonctionnement de Picasoft, le chaton ici à Compiègne, en toutocratie. Dans le cadre de l'UVIS3, on utilise aussi un outil d'expression fonctionnelle qui permet de formaliser la fonction de chaque idée qu'on a maquettée. Donc par rapport à l'histoire spécifique de l'atelier de sensibilisation aux enjeux du numérique, on a formalisé que le guide L'arbre à chatons permet à un membre de chaton d'avoir des idées pour sensibiliser aux enjeux du numérique. Plus spécifiquement, l'atelier en lui-même permet d'éduquer et de sensibiliser aux enjeux du numérique, et l'atelier permet aussi de communiquer à de nouveaux milieux, par exemple en école ou à des événements. Au niveau des valeurs, on a identifié comme principale valeur la responsabilité sociale, avec par exemple la diffusion et l'éducation qui sont des objectifs de développement durable de l'ONU, et aussi la convivialité technique, parce que ça permet aux utilisateurs d'être plus autonomes, d'avoir accès à des techniques plus simples et de changer leurs usages. Enfin, comme levier, par rapport à ces ateliers, c'est principalement l'alerte, car ils permettent d'avertir sur les dangers du numérique, mais aussi l'imagination, car ils permettent de réfléchir, de créer et de diffuser des récits alternatifs. Je vais maintenant vous laisser écouter Louis, qui va nous présenter un outil d'évaluation.
Merci beaucoup, Capucine. Alors, en effet, une autre approche de notre projet qu'il est assez pertinent d'explorer aujourd'hui, c'est son évaluation qualitative. En l'occurrence, nous nous sommes posé la question de l'impact qu'aurait l'arbre à chatons sur la fermeture de différentes infrastructures, secteurs ou encore industries. Alors par fermeture, on entend l'arrêt total de la création, de la production et de l'utilisation de certaines technologies. Alors c'est un concept qui a été formalisé par Moning, Ziego et Landivar en 2021. Aussi, cet arrêt peut être partiel et dans ce cas-là, on parle de fermeture partielle. Alors, nous avons donc directement pensé à l'impact qu'auraient les communs numériques sur les GAFAM. GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc. Alors, en effet, dans l'hypothèse d'une totale substitution des services proposés par ces entreprises, par donc des services proposés par des chatons, par exemple des services de cloud, de mail ou encore des réseaux sociaux, alors on pourrait envisager de fermer donc ces grosses entreprises et ou en tout cas pardon de participer à la diminution de leur présence dans le monde numérique. Cette fermeture impliquerait bien sûr la redirection de plus de 2 millions d'emplois dans divers secteurs en faisant attention bien sûr à bien valoriser les compétences de chacun et en les employant par exemple dans des chatons. Alors, une grande majorité des data centers seraient aussi sujettes à la fermeture. Cette fermeture nécessitera inéluctablement un accompagnement qui prendrait la forme d'une réutilisation des anciennes infrastructures matérielles. Par exemple, la réutilisation du système de gestion de chaleur des data centers qui pourrait être réemployé au sein de laboratoires ou d'hôpitaux. Par la suite, nous nous sommes posé la question des bénéfices potentiels qu'aurait la fermeture de certaines institutions, organisations, via des initiatives du collectif Chaton. Par exemple, si on considère la fermeture, encore une fois, des GAFAM, alors on aurait besoin de projets découlant de l'arbre à chatons pour donc consulter ses mails, regarder des vidéos ou accéder à des services numériques en général. Par exemple, 90% du flux de mails mondial passe aujourd'hui par Gmail et il faudrait donc essayer de rediriger ce flux. Dans le cas de mails, un aspect aussi qu'il faudrait prendre en compte et étudier serait la gestion des spams et des comportements malhonnêtes qui, de par l'infrastructure décentralisée des chatons, est une limite difficile à franchir. On s'est enfin penché vers le cas de l'industrie fossile qui, en cas de fermeture, pourrait laisser place à de nouveaux moyens de production beaucoup plus locaux, comme ceux mis en avant à travers les guides de l'arbre à chatons. En conséquence, cette fermeture, il y aurait aussi besoin de fermer des infrastructures liées à la production d'énergie, puisque le numérique représente aujourd'hui environ 10% de la consommation électrique mondiale, selon l'ADEME. Donc, après cette petite partie axée sur l'évaluation de notre projet, je laisse Abel conclure cette présentation.
Merci Louis, et pour conclusion, je vais simplement vous poser la question suivante. Est-ce qu'au final, la meilleure des solutions contre l'impact négatif du numérique, ça ne resterait pas tout simplement de nous dénumériser, ou au moins en partie? Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. C'était L'Arbre à chatons, en compagnie de notre professeur Stéphane Croza. Et on peut maintenant répondre à vos questions.
Merci Abel, merci Capucine et merci Louis de cette présentation. Donc effectivement, vous nous avez parlé de notamment la problématique de la convivialité du numérique, le fait que ce soit difficile, c'est une technologie particulièrement difficile à rendre accessible à l'ensemble de la population, ce à quoi s'attachent notamment les chatons. Vous nous avez parlé aussi de fermeture, un des concepts que l'on travaille un peu dans le cadre du cours et qui est assez essentiel. Abel, tu parles de dénumérisation à la fin. Effectivement, on est dans une société où de l'ouverture, où l'innovation rime avec ouverture, c'est-à-dire faire du nouveau, c'est toujours ajouter en fait de nouvelles choses. Eh bien, comme tu l'as dit, Diego Landivar et Monin nous proposent de se tourner vers une société de la fermeture. Ils parlent de désinnovation et en tout cas de cette idée à un moment qu'on pourrait organiser le fait de se débarrasser ou de réduire, comme vous l'avez suggéré, un certain nombre de choses. Alors, quelques questions pour prolonger un peu cet échange. Peut-être la première question de Guillemette du groupe SOS Capteur. Est-ce que vous avez des éléments dans votre projet qui sont justement, peut-être en termes de convivialité, orientés vers un public qui serait ni ingénieur ni informaticien? Est-ce que, pourrait contribuer d'une façon générale à ces différents projets de dénumérisation ou de mise à disposition du numérique des profils qui ne soient pas spécialisés dans le domaine technique?
L'idée c'est que l'arbre à chatons ça puisse s'adresser à tous les membres de chatons et il y a évidemment des membres de chatons qui ne sont pas du tout techniciens ou ingénieurs. Et par exemple, une de nos suiveuses, Maëlle, s'occupait beaucoup plus de la partie communication du chaton. Et donc, nous, on a deux branches qui sont celles de communication et sensibilisation et la branche gouvernance qui ne sont pas du tout techniques. Et donc oui, par exemple, en proposant des ateliers ou de la communication, c'est des manières de s'investir qui ne sont pas en étant technicien. Et ensuite, les chatons, évidemment, s'adressent à toute la population. Et le but aussi, c'est que ce soit le plus accessible possible. Voilà, merci.
Ok, effectivement, pour corroborer ce que tu dis, dans l'association Framasoft que vous avez mentionnée, qui est en quelque sorte la maman chaton, je ne sais pas si on peut dire ça, la maman chatonne, eh bien, la majorité en fait, des membres hein, et même des salariés ne sont pas des spécialistes techniques. Donc ça corrobore ce que tu dis. Alors il y a deux questions, je change un petit peu de registre, mais il y a deux questions que je trouve très pertinentes qui sont liées sur des risques en quelque sorte liés à la décentralisation. Alors on en a déjà parlé dans d'autres émissions, hein, on peut assimiler ça à des effets indirects ou des effets rebonds, c'est-à-dire que en décentralisant finalement ou en donnant, comme le dit Valentin, la possibilité à tout le monde de créer un chaton. Alors, on n'en est pas tout à fait là, mais comme le dit également Élodie du groupe L'Encyclopédia, en décentralisant trop, eh bien, est-ce qu'on pourrait avoir des effets d'échelle indésirables ? C'est-à-dire qu'on pourrait se trouver finalement avec des serveurs qui sont plus très utiles ou trop de fois le même service. Hein, tu l'as mentionné, Picasso propose un certain nombre de services. Il y a aujourd'hui, je ne sais plus trop, mais entre 100 et 150 chatons en France. S'il y en avait 10 000 ou 100 000, est-ce qu'à un moment, effectivement, on n'aurait pas une problématique inverse, même si on en est assez loin ? Ça fait partie des objectifs de l'UV aussi, d'essayer d'anticiper un petit peu ces choses-là.
Alors oui, c'est vrai que le risque existe, mais c'est pour ça que le réseau en forme de... Enfin, tous ces chatons peuvent être fédérés par le grand collectif des chatons, et donc ça va permettre oui de mettre en place par exemple des régulations ou je ne sais quoi qui pourraient permettre d'éviter tous ces effets rebonds.
Et puis il faut savoir que, alors je pense que c'est simplement la question qui est formulée de cette manière, mais l'arbre à chaton ne donne pas la possibilité à chacun de créer son chaton. Chacun a déjà le droit de créer son chaton, chacun peut déjà créer ses serveurs. Nous, notre but, c'est d'aider les gens à créer particulièrement des chatons. Mais en fait, il y a déjà plein de petits serveurs qui existent, qui tournent, certains inutilisés. C'est la problématique d'Internet et du web en général, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup et énormément, même une grande majorité, il me semble à trois quarts, il faudrait revérifier la source, mais je ne suis plus sûr, mais des sites Internet qui tournent dans le vide, qui ne sont pas utilisés, qui sont dits morts. Donc c'est déjà une problématique qui existe, qui n'est pas propre à celle des chatons, mais c'est une problématique très intéressante, donc c'est une très bonne question. Il faut la traiter, voilà, c'est quelque chose de plus général à l'arbre à chatons. Mais oui, le risque existe, comme Louis l'a dit.
Et en effet, hein, le fait que les chatons soient fédérés leur permet d'échanger. Alors par exemple, encore une fois, je peux témoigner, mais à Picasoft, il arrive qu'on ait des utilisateurs qui disent « Est-ce que vous ne voulez pas ouvrir tel ou tel service ?» Et puis les gens vont discuter. Et parfois, la réponse sera « Bah non, parce qu'en fait, l'offre, elle est déjà suffisamment existante. Donc ça ne sert à rien qu'on ajoute ça. » quoi. Donc ça va effectivement dans le sens de ce que vous avez suggéré. Peut-être aussi une autre question posée par qui va un petit peu dans le même sens, hein, liée au risque de la décentralisation que pose Jeanne du groupe Rita. Est-ce que dans l'arbre à chatons, il y aura des outils méthodologiques et ou techniques pour aider à la protection des données des utilisateurs et où également, il me semble que vous avez mentionné, c'est vous qui avez mentionné la protection contre le spam, mais on a ces différentes problématiques, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, eh bien finalement, il faut pas mal d'énergie, il faut pas mal de compétences pour bien protéger les données, bien se protéger contre effectivement les agressions extérieures, et finalement est-ce que la démultiplication risque pas un peu de disperser les forces, quoi, on pourrait dire ça comme ça.
Alors, c'est une très bonne suggestion, honnêtement. C'est quelque chose auquel on n'a pas forcément pensé pour l'instant. Alors, le guide est encore au stade conceptuel, donc tous les aspects du guide ne sont pas forcément abordés très en détail. Mais un des points du guide, c'est de rendre accessible la construction de son propre chaton. Donc, ça paraît évident qu'au bout d'un moment, on aborderait ces points-là. Mais effectivement, la question de la sécurité, c'est très important. Un des endroits où on l'aborde rapidement, c'est sur la question du stockage des données. Ce que propose l'arbre à chaton, c'est de dire on stocke moins de données. En fait, on stocke quasiment pas de données personnelles. Et donc la sécurité s'en va renforcer parce que tout simplement si un pirate vient accéder à nos bases de données, ben en fait on n'a rien à leur donner. Alors évidemment on n'a pas exactement rien à leur donner, on a quand même des mots de passe, des noms d'utilisateurs, mais c'est très limité. Donc évidemment ça c'est un point qui simplement renforce la sécurité sans forcément parler de points techniques. Mais c'est vrai que c'est très important d'en parler et si le guide vient à être réellement écrit, on en parlera.
Eh ben merci, merci beaucoup à tous les trois pour la présentation de ce projet. Hein. On a beaucoup on a plus parlé la semaine dernière des enjeux de décentralisation fédération, mais c'est des choses effectivement qu'on a abordées à plusieurs reprises dans le cadre du cours, donc qui voilà, qui était particulièrement visible dans votre projet. Donc cette idée de créer plusieurs structures similaires sur le territoire afin qu'effectivement, dans une logique de convivialité, les compétences soient dispersées, afin également d'avoir un contrôle démocratique. Vous avez parlé de la toudoucratie de Picassoft, qui permet à une échelle assez modeste de mettre en place des procédures de démocratie directe, mais effectivement, dans des très grosses structures, bah, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Donc voilà, ça nous a permis d'explorer un peu ces différents éléments. Je rappelle les sites que vous avez déjà cités, hein, en lien avec votre projet, donc chaton.org avec un S à chaton, framasoft.org, picassoft.net. Les résultats de votre projet, tout ce que vous avez fait ce semestre qui dépasse largement ce que vous nous avez présenté là, sont accessibles depuis le site lownum.fr, L-O-W-N-U-M, et ainsi que les 8 autres projets de ce semestre et même les projets des semestres précédents. Bah, je ne sais pas si vous avez un dernier mot.
Il y a de l'Otech Magazine aussi.
Donc tu as cité le Lotech Magazine, tout à fait, allez-y, profitez-en, c'est l'heure de la pub, et c'est le dernier mot de toute l'UV, là, donc vous dites pas de bêtises, vous trompez pas, 1, 2, 3, non?
Bah merci déjà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
Ouais, c'était dur comme pression. Hein.
Ouais.
Et bah restons sur un joli silence alors à ce moment. Merci beaucoup à tous les trois, et à très bientôt pour... de nouvelles émissions dans le cadre de l'UVIS3, d'autres UV présentes à l'UTC sur les ondes de graphite, d'autres émissions de graphite. Au revoir.
Au revoir.